France Culture.
La science CQFD, Antoine Beauchamp.
La pluie est l'une des ressources vitales pour la vie sur Terre. Pourtant, on comprend souvent mal ce phénomène et la plupart des gens adorent s'en plaindre. On essaie aujourd'hui de remettre de la science dans les nuages pour vous faire aimer la pluie ou au moins mieux la connaître. C'est un sport national, se plaindre du temps pourri et râler après cette goutte de pluie qui vient tomber dans votre cou un jour d'hiver. Mais peut-être qu'en regardant la pluie sous un nouveau jour, celui des sciences, on pourrait la comprendre et même, qui sait, l'apprécier. C'est le pari que font nos invités du jour en nous proposant une balade sensible et scientifique sous les averses, faite d'escales qui nous apportent des nuées d'informations sur ce phénomène particulièrement complexe à appréhender dans sa totalité. On ferme nos parapluies et on court sous l'orage. Aujourd'hui, la pluie est notre amie et on va la comprendre sous toutes ses gouttières. La pluie, goutte que goutte. Et pour parler de cette pluie vue par les sciences, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Eleonora Dallan. Bonjour.
Bonjour à tutti.
Bonjour à tous.
Vous êtes ingénieure environnementale, chercheuse à l'Université de Padoue. Vos propos seront aujourd'hui traduits de l'italien par Olivier Favier. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes également en compagnie d'Auguste Gir. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au laboratoire hydrologie, météorologie et complexité de l'École nationale des ponts et chaussées. Vous co-signez, Eleonora Dallan et Auguste Gir, ce joli livre intitulé « Balade sous la pluie » paru aux Presses des Ponts, un livre qui contient 1000 informations sur la pluie et que l'on va parcourir bien sûr ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez, comme chaque jour, retrouver tous les liens qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky, @sciencesqfd, pour commencer cette promenade joyeuse qui fait rimer joyeuse et pluvieuse avec vous, Auguste Gir et Eleonora Dallan. J'aimerais qu'on parle de la genèse de ce livre. Auguste Gir, pourquoi avoir fait ce choix de cette balade avec des escales sous la pluie? Quels étaient les points de départ de ce petit ouvrage?
Ouais, cet ouvrage a démarré par une rencontre avec Eleonora il y a quelques années, et on a rapidement développé différentes activités pour expliquer notre métier d'abord à nos familles, puis nos amis, et puis on s'est aperçu qu'on aimait bien tous les deux aussi marcher sous la pluie, regarder ce phénomène parce que il est accessible à tous, tout le monde peut le voir vraiment, et puis petit à petit on a eu envie de se reposer sur la curiosité des gens et de leur faire découvrir davantage ce phénomène qu'ils peuvent tous voir, la plupart des gens expérimentent la pluie assez régulièrement, parfois trop, ils s'en plaignent même parfois, et de leur donner envie d'en comprendre un petit peu plus et de s'appuyer sur leur curiosité naturelle pour leur faire découvrir ce phénomène.
Eleonora Dallan, dans la science CQFD, bien sûr, on aime la vulgarisation scientifique. Et ce que j'ai trouvé très appréciable dans ce livre « Balade sous la pluie », c'est cette dimension que vous caractérisez de vulgarisation sensible. Ça passe par quels éléments concrets, cette vulgarisation sensible autour de la pluie dans le livre ?
Notre intention était de rendre la connaissance accessible, compréhensible aux personnes, et donc nous avons essayé d'utiliser des termes précis, mais aussi d'expliquer de manière simple. Et donc je pense que l'usage de beaucoup de photographies qui ont été prises dans nos vies quotidiennes, on les a prises dans notre expérience de vie quotidienne, ça aide beaucoup en fait à faire de la divulgation, à faire de la vulgarisation pour les personnes peuvent comprendre ce dont nous parlons.
Auguste Gir, on va faire du coup un petit voyage à bord de gouttes de pluie aujourd'hui. On va recommencer par l'origine. Alors en fait, ce qui est intéressant avec la pluie, c'est que c'est quand même à l'interface entre la terre, le ciel, et c'est ce que vous rappelez dans ce livre « Balade sous la pluie ». On va refaire un petit point sur ce cycle de l'eau qui amène les nuages à se former. Que faut-il retenir de ce cycle pour comprendre comment la pluie se forme ?
Vaste question. Vaste question. Donc effectivement, la pluie fait partie du cycle de l'eau plus généralement. Et globalement, pour en dire quelques mots, il va y avoir, c'est un cycle, hein, donc on peut le démarrer à n'importe quel moment, mais en partie, il y a de l'eau liquide qui se trouve à la surface de la Terre, principalement au niveau des océans. Et puis il va y avoir la chaleur du soleil qui va faire qu'une partie s'évapore. Et puis cette eau va en partie se condenser. On reviendra plus en détail, je pense, un peu plus tard dans l'émission sur comment effectivement ça se forme. Et puis il va y avoir de la pluie qui va tomber et qui, in fine, va remplir les rivières et s'écouler de nouveau jusqu'aux océans.
Eleonora Dalan, ce qui est très intéressant, et ça c'est quelque chose que j'ai appris en lisant ce livre, c'est que la pluie représente une toute petite proportion de l'eau terrestre. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée éventuellement de ces proportions-là ?
Oui, c'est vraiment comme ça. Ensuite, on peut peut-être avoir des nombres plus précis, mais effectivement, la pluie, la vapeur, l'eau qui est dans l'atmosphère, c'est une toute petite partie par rapport à l'eau qui est présente sur la Terre, dans les fleuves, surtout les rivières et dans les océans. Il faudrait demander à Auguste quelques nombres plus précis.
Alors, Auguste, quelques chiffres sur cette proportion que représente la pluie terrestre en matière d'eau terrestre.
Ouais, alors pour donner un petit ordre de grandeur, si on imagine que la Terre est recouverte d'une enveloppe d'eau, toute l'eau liquide contenue dans les océans, si elle recouvrait la Terre, ça ferait une enveloppe qui ferait 3,6 km. C'est des ordres de grandeur. Mmh. Et si on s'intéresse juste à l'eau présente dans l'atmosphère, qui va faire la pluie à un instant donné, ça représente environ seulement 2,5 cm. Donc c'est vraiment une toute petite partie de l'eau qui est dans l'atmosphère et qui circule.
Alors cette eau dans l'atmosphère, elle se forme en nuages. Eleonora Dalan, je vais vous poser plein de questions d'enfants aujourd'hui, ne m'en voulez pas, mais c'est quoi un nuage? Et concrètement, autour de quoi ça se forme?
Auguste a parlé du cycle de l'eau. Il a nommé différentes phases. Donc l'eau est sur notre planète Terre, mais les nuages sont dans l'atmosphère. Et ces nuages, ça démarre avec un processus d'évaporation dans le ciel et l'eau se transforme en vapeur d'eau. Et ensuite, grâce à différentes températures, nous avons un mouvement vers le haut. L'air plein de vapeur d'eau monte vers l'atmosphère. Et ensuite, à cause d'une température plus basse, il commence à se condenser en gouttes qui sont toutes petites. Et donc, elles sont très petites par rapport à la pluie. Et ces toutes petites gouttes d'eau, elles sont en suspension dans l'atmosphère. Elles forment des nuages.
Auguste Gir, est-ce que tous les nuages sont porteurs de pluie ?
Non. Non, on va répondre abruptement, non, pas tous. C'est-à-dire qu'il y a des nuages qui sont simplement des petites gouttelettes ou des cristaux de glace quand ils sont vraiment hauts, et ces petites gouttelettes restent en suspension. Et pour que vraiment de la pluie se forme, il faut qu'il y ait beaucoup de petites gouttelettes qui finissent par former des gouttes un peu plus grosses, qui vont finir par tomber. Mais donc non, tous les nuages ne sont pas porteurs de pluie in fine.
Alors quels sont les nuages qui justement dans cette grande famille des nuages vont être plus porteurs de pluie que d'autres ?
On peut penser le nuage le plus symbolique qui est le cumulonimbus, qui contient d'énormes quantités d'eau liquide et dans lequel il y a des grosses gouttes qui vont pouvoir se former et créer des orages. Et effectivement ce type de nuage-là va engendrer beaucoup de précipitations.
Quel est le rapport entre la température et la formation de ces nuages et de ces nuages de pluie ? Il y a une relation que vous décrivez bien dans ce livre, c'est la relation de Clausius-Clapeyron. Est-ce qu'on peut parler justement de cette relation-là et de ce lien qu'elle établit entre température et pluie ?
Oui, alors ça va permettre de compléter ce qu'a dit Eleonora précédemment. La relation de Clausius-Clapeyron donne la quantité d'eau sous forme de vapeur qui peut être contenue dans un certain volume d'atmosphère, dans un certain volume d'air, pardon, et cette quantité diminue avec la température. Et c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Eleonora, lorsque on a de l'eau chargée en vapeur d'eau chaude qui s'est évaporée, qui va s'élever, cette eau se retrouve dans des conditions plus froides, et donc l'air peut contenir moins de vapeur d'eau, et il y en a une partie qui va se transformer en eau liquide, et former les petites gouttelettes autour de noyaux de condensation.
Alors on parlera bien sûr de ces gouttelettes-là et de comment elles se caractérisent et comment elles se divisent en plusieurs groupes, mais on a tous fait cette expérience-là, Eleonora Dalan, de sentir plusieurs types de pluie. Alors quelles sont les grandes familles de pluie qu'on a identifiées et que vous identifiez, vous, en tant que scientifique spécialiste de la question ?
Oui, selon les processus qui les mouvements de l'air, on a différents types de phénomènes de pluie. Auguste a nommé les nuages qui on appelle cumulonimbus, qui sont caractéristiques des orages d'été qui durent peu mais qui sont très très intenses. Et ce type de phénomène est dû un fort réchauffement de la superficie terrestre, par exemple en été, et un fort mouvement vertical vers le haut. Et donc, on a un mouvement rapide et vers le haut, et donc on a un refroidissement qui est aussi rapide. Et donc, on a un phénomène intense dans les orages d'été. Mais la différence de température peut être aussi quand il y a des grosses masses d'air qui se déplacent horizontalement, une chaude et une plus froide, et qu'elles se rencontrent. Ce sont les fronts et de basse pression et atmosphérique. Et quand ces deux masses d'air se rencontrent, une chaude, une froide, et celle qui est chaude, elle est riche d'humidité et ça forme des nuages. Et qui sont les stratus, ils sont appelés comme ça, et ils forment une précipitation qui peut durer beaucoup plus longuement. Bon, ces événements pluvieux, un peu moins intenses, mais qui peuvent durer un jour, deux jours, trois jours, et donc amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie.
Auguste Augier, quelle est la différence entre une pluie d'averse et, mettons, une bruine, comme on en a assez régulièrement en ce moment? Est-ce que ça vient de nuages différents, de gouttes qui se forment à plusieurs endroits différents dans l'atmosphère?
Oui, mais ces différents types de pluies sont liés à des processus météorologiques globaux qui sont différents et qui vont donc amener différents types de pluies, de tailles de gouttes de pluie. Peut-être qu'on reviendra un peu plus tard sur les différentes tailles de gouttes. Et donc effectivement, par exemple, les processus dans les cumulonimbus avec ces forts mouvements convectifs vont engendrer des grosses gouttes de pluie et des quantités d'eau plus importantes, alors que les processus de pluie plus stratiformes dont vient de parler Eleonora amènent des gouttes qui sont souvent beaucoup plus petites et moins grosses, quoi.
Eleonora Dallan, quand on regarde un nuage, on a une impression de sérénité, voire de quasi-immobilité, alors qu'en fait, ce qui se passe dans un nuage, c'est un peu la guerre. C'est très compliqué, il y a beaucoup de mouvements là-haut.
Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'énergie et de mouvement, parce qu'il y a d'une part différentes températures, donc des échanges de chaleur, dans les changements de chaleur, des formations de pluie ou par exemple de glace. Ça peut être la neige, ça peut être aussi ou la grêle. Et puis, s'il peut y avoir, quand se forment des éclairs, des charges électriques très très différentes. Donc, à l'intérieur des nuages, bien sûr, il y a une énorme énergie en mouvement.
Et cette agitation, Auguste Augier, est-ce que c'est ça qui va déterminer la taille des gouttes qu'on va décrire dans quelques instants?
Oui, elle joue clairement un rôle. Effectivement, pour que des grosses gouttes se forment, il va falloir qu'il y ait des collisions au sein des nuages entre toutes ces petites gouttelettes qui vont entrer les unes entre autres collisions et finalement fusionner pour devenir suffisamment grosses et in fine tomber. Et pour ça, il faut qu'il y ait des mouvements pour qu'il y ait ces collisions.
Alors, on va parler bien sûr dans quelques instants de ces stars de la pluie, les gouttes, on y vient.
France Culture. La science CQFD, Antoine Beauchamp.
On poursuit notre balade sous la pluie avec vous, Auguste Gire et Eleonora Dallan. On en vient à l'instant à ces stars de la pluie, à ces gouttes. C'est quoi une goutte de pluie? Je vous avais promis plein de questions d'enfants aujourd'hui. C'est quoi une goutte de pluie? On va s'intéresser à cette question et à ces centaines de millions de gouttes qui tombent pendant une averse. Et pour commencer ce portrait robot de la goutte de pluie, je vous propose d'écouter une archive. Il s'agit d'un extrait de l'émission Visa pour l'avenir, intitulé « L'homme et les nuages ». C'était diffusé en 1962 sur l'ORTF.
Il n'y a pas si longtemps que l'on sait comment naît la pluie. C'est autour d'un minuscule cristal de glace que se rassemblent les impalpables gouttelettes de vapeur d'eau du nuage pour former des gouttes de pluie. Voici reproduit en laboratoire le balai de cristal et de la goutte de pluie. Lorsqu'on humidifie l'air, la goutte naît et grandit. Si l'on refroidit l'atmosphère, le cristal réapparaît, prêt à susciter une nouvelle goutte. Les physiciens ont constaté que d'autres noyaux que le cristal de glace peuvent faire pousser les gouttes de pluie au sein du nuage. Un peu de sel arraché à la mer avec les embruns, par exemple, ou d'autres poussières, comme les météorites, ces poussières de l'espace qui provoquent peut-être certaines pluies.
Voilà, Auguste Gir, on a entendu cette voix de 1962 assez caractéristique de ces archives de l'ORTF. Alors la pluie, c'est parfois des milliards de gouttes qui tombent. Toutes ces gouttes se ressemblent-elles ? Visiblement pas. Comment se forment-elles déjà ? On a eu quelques éléments d'indices dans cette archive, mais comment se forme une goutte de pluie très concrètement ?
Oui, donc effectivement, on peut parler de deux processus qui vont intervenir. D'abord, donc effectivement, comme c'était mentionné dans l'archive, il y a de la vapeur d'eau qui va commencer à se condenser autour de noyaux de condensation, qui peuvent être les différents éléments qui ont été mentionnés dans l'archive. Et donc il va y avoir une croissance par condensation de ces gouttes d'eau, qui est un premier type de façon de croître pour la gouttelette. D'ailleurs, c'est des gouttelettes seulement. Et puis, il y a aussi le phénomène de collision entre les gouttes qui vont rentrer les unes dans les autres, parce qu'il y a beaucoup de mouvements turbulents dans les nuages. Et une fois qu'elles se rendent dedans, elles vont fusionner pour donner des gouttes potentiellement de plus en plus grosses, et quand elles sont suffisamment grosses, elles finissent par tomber, et c'est ce qu'on appelle la pluie.
Il y a une taille limite à une goutte d'eau.
Ouais, alors les
gouttes de pluie, pardon.
Les gouttes de pluie vont les petites gouttes, c'est à partir de 0,1-0,2 mm de diamètre que la goutte va finir par commencer à tomber assez lentement, et puis peut-être dans les tailles maximales de gouttes, elles vont faire typiquement 5-6 mm. Sachant que la notion de taille de goutte, comme la forme n'est pas sphérique, c'est un petit peu complexe à déterminer, mais on pourra en dire deux mots après. Et les plus grosses gouttes, donc de 5-6 mm, en fait, les frottements de l'air vont faire que les frottements de l'air sont trop importants et la goutte va exploser et se transformer en plein de petites gouttelettes.
Alors parlons de ces formes, puisque vous ouvrez la porte de la forme de la goutte de pluie, on imagine cette belle goutte avec en pointe, avec le bas plus sphérique. C'est pas du tout ça, une goutte de pluie.
Non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est dans les livres pour enfants, mais malheureusement.
On aime bien.
Oh, on aime bien, mais il faudrait que les dessinateurs pour enfants aient une formation en hydrométéorologie pour être un petit peu plus précis dans leur description.
Bon, l'appel est passé.
Voilà. Donc, non, les gouttes sont. Les petites gouttes restent sphériques, tandis que les grosses gouttes vont être un petit peu aplaties, un peu comme on dit un ellipsoïde de révolution. On peut imaginer un ballon de rugby qui tourne sur lui-même, en raison des frottements de l'air dans la chute qui va aplatir la goutte un peu plus sur la partie dessous que la partie dessus. Mais donc elle a cette forme aplatie au cours de sa chute.
Éléonora Dallan, on parle de taille de gouttes et de forme de ces gouttes-là. Je vais partager une expérience qu'on partage tous, c'est qu'en été, j'ai l'impression que la pluie est plus drue, que les gouttes sont plus grosses. Alors qu'est-ce qui fait qu'en été, les pluies vont parfois être plus intenses et avec des plus grosses gouttes qu'en hiver quand il va pleuvoir, mettons, sur une journée entière ?
Le spécialiste, c'est Auguste sur ces questions, parce que lui, son travail est de mesurer la distribution et la dimension des gouttes, mais effectivement, il y a une relation entre la distribution et les dimensions et l'intensité de la précipitation. Et donc, dans les précipitations très intenses, tendanciellement, on a une plus grande quantité de gouttes grosses. Comme il l'a dit, ça peut aller jusqu'à 5-6 mm, comme il vient de le dire. Et en termes de volume, une goutte de 5-6 mm en termes de volume est des centaines de fois de plus grande que les toutes petites gouttes. Et donc, elle porte une grande intensité de précipitation.
Auguste Gir, sur cette question qui partait d'un simple constat, le fait qu'en été, les gouttes semblent plus grosses qu'en hiver, quand il pleut, donc à quoi ça tient ? Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme complément au propos d'Éléonora Dallan ?
Comme complément d'information, on peut dire que l'été, effectivement, il va y avoir beaucoup plus d'énergie solaire et donc de chaleur qui est amenée dans le processus, qui fait que le phénomène de convection, à la base qui évapore l'eau, va être beaucoup plus intense et il va créer des fort courant ascendant avec beaucoup d'évaporation dans ces nuages de type cumulonimbus, dans lesquels il va y avoir beaucoup plus de vapeur d'eau présente, liée à l'énergie solaire qui est apportée et qui va permettre la formation de gouttes beaucoup plus importantes, plus grosses.
Il y a des gouttes qui sont des sprinteuses et des gouttes qui sont des tortues. Alors là, à nouveau, c'est juste lié à la taille et au poids, du coup, de la goutte.
Oui, donc effectivement, la goutte dans sa chute tombe à cause de la gravité, et elle est retenue dans sa chute un petit peu par la poussée d'Archimède qui la soulève, mais beaucoup par les frottements de l'air à un moment. Et donc il arrive un moment où elle atteint une vitesse qu'on appelle vitesse terminale de chute, qui reste à peu près constante dans sa chute. Et là, pour donner peut-être quelques ordres de grandeur, une goutte qui va faire 0,2 mm, donc les petites gouttes qui tombent, elles vont tomber à de l'ordre de quelques mètres par seconde, ce qui est une vitesse assez faible. Pour donner un ordre de grandeur, ça veut dire que si elle tombe d'un nuage d'un kilomètre, elle va mettre une vingtaine de minutes à atteindre le sol. Alors que si on s'intéresse à des grosses gouttes, celles qui font 5-6 mm, à ce moment-là, leur vitesse de chute, c'est de l'ordre de 9 mètres par seconde. Donc pour donner un ordre de idée, 9 mètres par seconde, c'est la vitesse des femmes en finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques.
J'ai vraiment employé le mot de sprinteuse à bon escient.
Oui, exactement. C'était un excellent choix. Et à ce moment-là, la chute depuis un nuage qui serait un kilomètre, elle mettrait que 2 minutes à tomber sur le sol.
Si on dézoome un tout petit peu, Eleonora Dallan, quand on est en Écosse, la pluie ne semble pas être la même que quand on est, si on a eu la chance d'aller sous les tropiques, ou bien même si on est sous nos latitudes, la pluie n'est pas la même qu'en Écosse ou qu'en Amazonie. Comment expliquer cette différence de nature de pluie selon les latitudes? À quoi ça va tenir là au nouveau?
Ici entrent en jeu des mouvements de masse d'air au niveau global, et donc ils sont dus aux grandes circulations atmosphériques qui évidemment changent localement. Mais disons qu'on peut dire qu'il y a des tendances selon la latitude à cause de justement des différentes chaleurs qui arrivent du soleil, qui frappent la Terre et de différentes manières. Donc à l'équateur justement, il y a des zones du globe où il y a la plus grande chaleur. Nous avons tendanciellement de l'air très humide en ascension qui va vers le haut, et ce sont des zones où il pleut beaucoup à cause de ça. Et au niveau global, il se forme une grosse circulation d'air qui vers les tropiques descend. Et donc c'est sec, l'air est sec à ce moment-là, et dans les zones tropicales, eh bien, d'habitude, on a la formation de désert au niveau des tropiques. Et entre les 30 degrés et les 60 degrés de salitude, où on a à peu près l'Écosse, on a de nouveau une zone où nous avons de l'air humide qui monte, et ce sont des zones plus où il pleut davantage. Mais évidemment de différentes manières que par rapport à l'équateur, parce que l'air est beaucoup plus riche d'humidité.
Auguste Gir, on parle de saison de pluie, on parle de mousson. Même chez nous, l'automne est plus pluvieux que le cœur de l'été en général. Comment expliquer ces variations saisonnières justement de pluviométrie aux quatre coins du monde? Et est-ce que ça a encore un lien avec cette question de latitude?
Oui, donc ça a un lien avec... Il y a plusieurs phénomènes qui rentrent en jeu, qu'on peut mentionner. Ça a effectivement un lien avec les effets de latitude qui sont mentionnés par Eleonora. Et donc, in fine, ça a beaucoup de liens avec l'énergie solaire qui est apportée dans le processus et qui permet l'évaporation, qui fait qu'on retrouve des effets saisonniers qui sont effectivement assez importants. Et je pourrais peut-être compléter... Un élément en plus de ces effets de circulation globale, il y a parfois des effets locaux liés au relief qui vont engendrer des pluies orographiques, ou quand on a des quantités d'air assez humides qui arrivent des océans qui sont poussés par les vents sur des chaînes de montagnes ou des reliefs qui vont les aider, enfin qui va faire que l'atmosphère chargée en vapeur d'eau va s'élever assez rapidement et engendrer des pluies assez locales, aussi liées à des phénomènes de relief qui expliquent une partie des distributions en plus de la circulation globale mentionnée par Eleonora tout à l'heure.
Ce qui fait par exemple qu'à La Réunion, on a des records de pluie liés justement à ce relief.
Absolument. C'est effectivement de l'air chargé très humide qui arrive de l'océan, chaud, et qui arrive sur les reliefs et qui va s'élever rapidement. Et donc les phénomènes qu'on a mentionnés de formation de gouttes vont être exacerbés localement.
Restez avec nous après avoir décrit ce phénomène physique qu'est la pluie, on va voir dans quelques instants comment les scientifiques mesurent ce phénomène, les scientifiques dont vous faites partie, et grâce à quels outils. Ce sera juste après ça.
On dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. On dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. Mais ça pleut quoi? Ça pleut de la joie. Ça pleut ici. Ça pleut chez moi. Qui l'eût cru? Moi je le crois. Elle est venue jusqu'à mon toit. Ouais, on dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. On dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. Mais ça pleut tant, tant mieux pour moi. Ça pleut tellement qu'elle me nettoie. Mais qu'elle me remplisse, qu'elle me noie. Tant qu'elle pisse, je la reçois. Ouais, on dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. On dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. Parce que je pue, parce que je suis sale, parce que je sue, parce que c'est mal, parce qu'il n'y en a plus, parce que je râle. Elle est bienvenue, moi je l'avale.
Que ça pleut par Mathieu Bougertz dans la science CQFD sur France Culture. On poursuit notre balade joyeuse et scientifique sous la pluie avec vous, Eleonora Dallan, ingénieure environnementale, chercheuse à l'université de Padoue, et avec vous, Auguste Gire, chercheur au laboratoire hydrologie, météorologie et complexité de l'École nationale des ponts et chaussées. Je rappelle que vous avez écrit tous les deux un très joli livre plein d'informations intitulé « Balade sous la pluie » paru aux Presses des Ponts et qui nous sert de guide tout au long de cette émission. Alors après avoir décrit la pluie dans toutes ses formes et dans ses variations géographiques, on va parler des recherches scientifiques qui permettent de comprendre la pluie, et pour ça, on part en reportage. Pour analyser les précipitations, on utilise divers types de mesures, dont certaines reposent sur des principes optiques. Pour le reportage du jour, nous sommes allés les découvrir chez vous, Auguste Gire, au laboratoire d'hydrologie, météorologie et complexité de l'École des Ponts et Chaussées. Avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Antoine, oui, sur le toit de l'école qui abrite une station de mesure de la pluie, et c'est Emna Chikawi, doctorante, qui nous explique le fonctionnement de ces instruments comme le dismomètre qui révèle la position et vitesse des hydrométéores ainsi que leur distribution spatiale et intensité, ou bien des radars qui par effet Doppler évaluent la vitesse de chute des gouttes jusqu'à plus de 4 km d'altitude, des mesures qui améliorent la compréhension de la variabilité spatio-temporelle de tout type de précipitation.
Là, on est sur le toit de l'école où nous avons installé tous nos instruments de mesure de la pluie. Donc, on a le dysdromètre, c'est un instrument de mesure de la pluie qui nous renseigne sur la taille et la vitesse de chute des gouttes de pluie. Bah, il est composé de deux éléments qui sont posés sur un support, sur une sorte de chariot sur le toit. Les deux éléments sont séparés par un petit espace vide au milieu par lequel passent les gouttes d'eau. Et en fait, en traversant cet espace-là, une goutte d'eau, goutte de pluie, du coup, elle va traverser un faisceau lumineux. Celui-là, là, ce que vous voyez ici, c'est de l'infrarouge. Et donc, l'un des éléments, il va émettre du coup de la lumière, qu'on appelle du coup un émetteur, et l'autre, il va recevoir cette lumière qu'on appelle un récepteur. Et il faut s'imaginer comme si on était dans une salle avec un projecteur et un écran. Et on va passer devant le projecteur et on va regarder l'écran. Et qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir notre ombre. Et bien, c'est la même chose avec les gouttes de pluie. Quand la goutte passe par la zone de mesure, elle va créer une ombre sur le récepteur. Et cette ombre-là, elle va renseigner du coup sur la taille et la vitesse de chute de la goutte.
Est-ce que c'est une méthode efficace pour caractériser la taille des gouttes selon n'importe quel type d'averse, qu'elle soit abondante ou plutôt légère ?
Bah, je vais dire qu'elle peut être peut-être un peu limitée quand il s'agit d'une averse un peu plus abondante, puisque l'instrument il va regarder goutte par goutte. Certaines gouttes elles vont venir se superposer. Du coup, parfois, on peut avoir une surestimation. On a un autre type d'hydromètre que Louis, il va venir prendre des photos du coup de la goutte d'eau qui va tomber au niveau de la zone de mesure.
En infrarouge toujours. Oui.
Et du coup, grâce à ce hydromètre, on va pouvoir aussi avoir la forme de la goutte de la pluie, de fonctionnement.
Pour quels objectifs on essaie de mesurer justement la taille des gouttes et leur dispersion dans l'espace ?
Du coup, en mesurant la taille des gouttes et leur distribution, on va pouvoir estimer l'intensité de la pluie, la distribution dans l'espace et dans le temps. On va pouvoir tracer des cartes de précipitation qu'on pourra par la suite utiliser pour, par exemple, des modèles de...
Des modèles météorologiques plus
fins. Oui, des modèles météo, effectivement, qu'on peut, par exemple, qu'on peut utiliser pour mieux prévoir les risques d'inondation. On a aussi d'autres instruments de mesure.
Alors celui-ci, il n'y a sûrement pas une parabole, c'est drôle.
Oui, du coup, là, l'autre instrument de mesure qu'on a, c'est un radar de pluie à micro-ondes. Et du coup, effectivement, ça ressemble à une petite parabole, du coup de 60 cm de diamètre, posée sur un support. Elle est orientée verticalement. Du coup, elle va envoyer une onde électromagnétique vers le ciel, qui peut atteindre plus de 4 km d'altitude. Et cette onde-là, lorsqu'elle va rencontrer une goutte de pluie, une partie d'elle va être rétro-diffusée, elle va retourner au radar, mais elle revient chargée d'informations. La première information va être l'intensité du signal, qui va nous renseigner sur la taille et la quantité de pluie, du coup des gouttes de pluie qui se retrouvent à une certaine hauteur. Plus le signal est fort, plus on a de gouttes de pluie, ou on peut dire aussi plus que les gouttes elles sont grosses. Deuxième type d'information qu'on peut avoir, c'est le décalage de fréquence d'ondes renvoyées au radar suite au mouvement des particules.
C'est toujours l'effet Doppler ou...
Effectivement, du coup, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet Doppler. Donc, le radar, il va utiliser, du coup, calculer ce décalage, parce que quand la goutte tombe, elle va modifier légèrement la fréquence du signal qui est renvoyé. Et du coup, le radar, à partir de ce décalage, va pouvoir calculer la vitesse de chute de gouttes de pluie.
On arrive à mesurer la position, la vitesse d'une goutte de pluie à 4 km d'altitude ?
En fait, on mesure... Enfin, je veux dire oui, mais on ne mesure pas goutte par goutte avec le radar. On mesure sur toute une colonne, en fait, oui, effectivement. Et en fait, à partir de ces mesures directes, de l'intensité du signal et le décalage de fréquence du signal renvoyé, le radar, il peut déduire d'autres informations, notamment l'intensité de pluie, à quelle hauteur la pluie elle va se former, comment elle évolue en descendant, quand est-ce que les cristaux de glace vont se transformer en pluie, etc. C'est comme si le radar il faisait une sorte d'échographie de l'atmosphère.
Alors, j'ai lu, mais corrigez-moi. En fait, il y avait une résolution de 35 mètres en altitude et que ça, c'était des sortes d'impulses toutes les 10 secondes.
En fait, le radar il va envoyer des ondes en continu. Ces ondes-là, elles vont être rétro-diffusées à une certaine hauteur et c'est en fonction du temps que les ondes ont mis pour retourner, le radar peut savoir à quelle hauteur se trouvent du coup, les gouttes de pluie. Et effectivement, la résolution, du coup, ce qu'on appelle la résolution spatiale de notre radar, c'est de 35 mètres et il va faire des mesures toutes les 10 secondes. Moi, je fais des études sur la pluie, mais à l'échelle des gouttes. C'est un monde fascinant. parce que en fait, à travers les différents instruments, on va pouvoir avoir plusieurs regards sur la pluie. Du coup, comme ça, on trace en quelque sorte l'histoire d'une petite goutte de pluie depuis sa formation jusqu'à son arrivée au sol. Oui, c'est assez fascinant comme monde.
Merci beaucoup Céline Lozanne. On retrouve comme chaque jour ce reportage et tous les précédents dans la collection de podcasts La Science au Labo sur l'appli Radio France bien sûr, mais aussi sur la page de La Science au Labo sur le site franceculture.fr. Auguste Gir, pour réagir à ce reportage, alors ce qui est intéressant, c'est que les spécialistes dont vous faites partie ont plus que des pluviomètres quand même pour étudier ces pluies, et c'est bien heureux. On entendait la complexité de ces moyens de détection et d'analyse des gouttes de pluie. Est-ce que vous avez d'autres instruments de mesure à nous décrire pour comprendre ces pluies qui nous arrivent?
Oui, donc effectivement, il existe de très nombreux instruments de mesure de pluie. Mais avant de décrire quand même juste les principaux instruments qui sont utilisés de façon opérationnelle, il est important de rappeler qu'un des grands défis de la pluie, c'est son extrême variabilité, à la fois dans l'espace et dans le temps, qui rend ce phénomène complexe à la fois à modéliser, mais aussi même mesurer. Donc j'ai donné quelques exemples d'illustrations en parlant des instruments. Donc il existe globalement deux grands types de mesures. Il va y avoir des mesures in situ, donc qui sont faites localement, ce sont des mesures ponctuelles avec des instruments qui vont capter la pluie de différentes façons sur des surfaces typiquement de l'ordre de quelques dizaines de centimètres carrés. Donc là on en a entendu parler avec Emna Chikawi qui a présenté l'instrument qui s'appelle un dysdromètre, qui va mesurer les gouttes, la vitesse et la taille de chacune des gouttes qui passent par ces petites surfaces de mesure. Il y a bien sûr le très connu pluviomètre qui lui va collecter l'eau c'est un entonnoir en fait, qui va collecter l'eau sur un cercle qui fait à peu près 20 cm de diamètre. Et puis cette eau va arriver... Il y a différentes façons de mesurer la quantité d'eau qui est tombée. Il peut y avoir des balances, tout simplement, et puis les instruments les plus classiques utilisés de façon opérationnelle par que ce soit les professionnels ou les chercheurs vont être des pluviomètres à OG où l'eau qui tombe à l'exutoire de l'entonnoir est collectée dans des petits... petites coupelles. Oui. Et puis dès qu'il y a eu 0,2 mm ou 0,1 mm de pluie qui est tombée, la petite coupelle se vide et on retient qu'il est tombé 0,1 mm depuis le dernier basculement de l'OG. Donc ça, c'est des mesures qui sont faites ponctuellement, in situ. Et on a aussi un deuxième grand type de mesures qui mettent des mesures par télédétection, donc cette fois-ci sont faites à distance. Et alors, il y a des mesures qui sont faites par satellite, mais je vais me concentrer plutôt sur ce qui est fait directement depuis le sol à l'aide de radars météo, dans lesquels qui fonctionnent comme tout radar. Donc il y a une onde électromagnétique qui est envoyée et une partie va être rétro-diffusée. Le défi, le grand défi, c'est de passer de cette mesure radar, qui est en gros une puissance reçue par le radar, à la quantité de pluie qui est tombée. Et pour faire cette conversion, il est nécessaire d'avoir des informations sur la distribution des tailles de gouttes. D'où le type d'étude menée avec les dysdromètres qui a été présenté pendant la capsule précédente. Et c'est vraiment un défi de convertir cette mesure radar en un taux de pluie.
Est-ce qu'il y a d'autres difficultés propres à ce sujet d'étude par définition volatile qu'est la pluie, en dehors de celui que vous venez nous décrire là?
Alors, je peux mentionner quand même, avec les mesures ponctuelles qu'on avait, le problème de la mesure ponctuelle, c'est qu'elle est ponctuelle. C'est-à-dire que, comme la pluie est très variable, il peut très bien y avoir une cellule intense pluvieuse, une zone très intense, qui va pas passer au-dessus de l'instrument de mesure, et donc elle va être ratée. Et c'est ce qui rend cette mesure vraiment, vraiment compliquée, d'où l'intérêt d'avoir des radars, qui souffrent certaines limites, qu'on pourra éventuellement discuter, qui permettent d'avoir des cartes de précipitation sur des zones beaucoup plus importantes, avec des pixels en fonction du type de radar, de 100 mètres à quelques kilomètres qui sont faits.
Autre question très naïve, pourquoi c'est aussi difficile de prévoir les précipitations de pluie et pourquoi c'est difficile de les prévoir à l'avance? Est-ce que ça, c'est un problème météorologique récurrent et à quoi ça tient?
Alors, c'est assez difficile de les prévoir très en avance parce que c'est des phénomènes qui sont très complexes et qui présentent une extrême variabilité. Et donc, ça va être très difficile d'être en mesure de prévoir la pluie à haute résolution, savoir où est-ce qu'une cellule intense va tomber. C'est-à-dire que des tendances globales, c'est davantage faisable. Mais par contre, c'est vrai que l'information à haute résolution, aussi bien spatiale que temporelle d'ailleurs, est effectivement très complexe à obtenir du fait de la variabilité intrinsèque de ce processus.
C'est là qu'interviennent éventuellement aussi, alors là c'est pas vraiment ça, mais c'est de la modélisation. Et Léonora Dallan, en lisant Balade sous la pluie, j'ai vu que on pouvait avoir recours à des fractales pour modéliser la pluie. À quoi servent ces modélisations-là de ces pluies? Expliquez-nous un petit peu l'intérêt de tout ça.
Pour cette réponse,
je préfère laisser la parole à Auguste, qui est vraiment spécialiste de ces modélisations, mais qui, d'une certaine manière, ont quelque chose à voir avec les propriétés intrinsèques de la précipitation, qui représentent différentes échelles.
Auguste, des précisions sur ces fractales qui viennent modéliser les averses. Là, ça y est, on rentre un petit peu dans la matrix.
Oui, là, effectivement. Alors, peut-être pour introduire ça de façon assez simple, je vais donner quelques ordres de grandeur. Si on s'intéresse juste au moment où il pleut, donc on s'imagine qu'on est à un endroit donné, et puis je considère une année de précipitation, et puis je découpe cette année en tranches de 30 secondes. Et puis je vais chercher à estimer quelle est la proportion de temps où j'ai effectivement eu de la pluie. Donc ce qu'on va retrouver typiquement en région Île-de-France, mais c'est assez le pourcentage que je vais donner sont pas complètement faux dans d'autres endroits. On va avoir de la pluie sur ces tranches de 30 secondes uniquement environ 5-6% du temps. Donc la pluie est un phénomène très rare. Donc il faut arrêter de se plaindre de la pluie, ça n'arrive pas très souvent.
Pas si souvent que ça.
Et je pense qu'au moins les auditeurs parisiens qui ont vécu un week-end un petit peu pluvieux sont pas forcément d'accord, mais à l'échelle de l'année, il ne pleut effectivement très rarement, 95% du temps, il ne pleut pas. Et si on calcule ce même pourcentage, mais pas avec des tranches de 30 secondes, mais des tranches de 1 heure, on va avoir 20% de pluie. Ce qui est peut-être un peu plus d'ailleurs le ressenti que les gens peuvent avoir. Et puis si on calcule ce même pourcentage, à l'échelle de la journée, on va retrouver entre 50% et 2/3 du temps de précipitation en région Île-de-France. Et donc le fait que ces pourcentages changent avec finalement l'échelle d'observation de la pluie montre bien la nécessité de se donner des outils qui ne vont pas dépendre de cette échelle d'observation. Et c'est là exactement où les fractales permettent d'aller.
En quoi justement elles vont nous permettre d'approfondir cette question-là?
Eh bien, elles permettent d'approfondir en ce sens qu'elles permettent de se donner un cadre de modélisation qui va être valable à toutes les échelles d'observation. Et ça permet de décrire le processus à l'aide de processus élémentaires qui sont simples et qui vont permettre d'expliquer la variabilité observée sur de grandes échelles spatio-temporelles.
Alors là, on avance à petits pas dans la complexité de la pluie. Éléonora Dallan, mettons ce phénomène complexe qu'est la pluie en parallèle avec un autre phénomène lui aussi éminemment complexe qu'est le réchauffement climatique. On parle beaucoup de ce réchauffement climatique. Quelles sont les conséquences connues de la hausse des températures sur la pluie, sur la pluie terrestre, sur les précipitations?
Vous l'avez bien dit, c'est un phénomène complexe et une grande partie de la recherche actuelle essaye de comprendre quel est le phénomène de l'effet du changement climatique donc le réchauffement global et l'effet sur les précipitations. Et donc effectivement, dans le monde de la recherche, il y a un accord sur le réchauffement climatique. Donc nous voyons un réchauffement climatique, mais l'effet sur les précipitations dépend de l'échelle temporelle et spatiale à laquelle nous le regardons. Et effectivement, les dernières recherches sont plus ou moins d'accord sur le fait que les températures plus élevées peuvent porter à des extrêmes de précipitations, des précipitations intenses, plus intenses. Justement à cause d'une plus haute température, et ce qui fait augmenter le pourcentage d'humidité que l'air peut contenir, donc potentiellement il y a plus d'eau qui peut tomber et aussi beaucoup plus d'énergie dans l'atmosphère. Donc nous en avons parlé avant, et donc la possibilité d'avoir des orages plus forts et plus intenses. Et donc cela dépend bien sûr de la localité, ça dépend, différentes études dans différentes parties du monde montrent la même chose. On a observé des changements de précipitations intenses, extrêmes, elles sont prévues. Si la température continue d'augmenter, ça va augmenter aussi. Et donc les précipitations moyennes sur le total annuel, il n'y a pas un signal aussi fort. Dans certains endroits du monde, il peut y avoir des augmentations et ailleurs des carences, donc des sécheresses à cause des températures plus hautes.
Je pense par exemple au département des Pyrénées-Orientales en France, qui pendant quelques années a connu de très très faibles taux de pluie, et puis récemment des pluies torrentielles il y a quelques jours, notamment au Boulou, ça s'est vu. Alors me demandez pas pourquoi je connais la météo du Boulou, mais en tout cas récemment il est tombé de très très fortes pluies. Il faut en fait finalement s'attendre à des intensifications de ces phénomènes extrêmes que sont les sécheresses et ces pluies torrentielles qui se déversent très violemment et très rapidement à un endroit donné.
Disons que localement, ce que vous avez observé dans les Pyrénées, avant de l'associer au changement climatique, il faut avoir une longue série d'observations. Donc, des années d'observations. Comme nous l'avons vu, la pluie a beaucoup de variabilité dans l'espace et dans le temps. Donc, cette variabilité, elle peut se produire d'une année à une autre. Donc, on peut avoir, par exemple, plusieurs années avec des pluies abondantes. Mais si ça est observé sur de nombreuses années, on peut l'attribuer au changement climatique. Et effectivement, on dit souvent que nous pourrions avoir des extrêmes plus extrêmes, et si que ça soit pour la sécheresse ou pour l'intensité des précipitations extrêmes dans les deux directions.
Donc cette variabilité-là spécifique que vous décrivez à l'instant, Eleonora Dalan, c'est un vrai problème en matière de recherche scientifique pour anticiper l'évolution d'un phénomène qui nous semble banal comme est la pluie, et pour anticiper les potentielles même catastrophes qui sont liées directement à ces fortes pluies.
La variabilité rend ce phénomène complexe et bien sûr elle demande beaucoup de recherches. Nous sommes en train de commencer dans les dernières années à étudier beaucoup le changement climatique, mais sûrement il faut encore beaucoup plus d'études nécessaires pour arriver à comprendre le phénomène, comment il pourrait changer, on pourrait le gérer aussi, le risque hydrologique, parce que c'est lié aux extrêmes, mais aussi la gestion de la ressource hydrique, la quantité d'eau dont nous disposons chaque jour pour les usages civils, pour l'agriculture.
Et ça fait aussi, ça nous renvoie finalement à notre inadaptation ou l'adaptation de nos infrastructures. On pense par exemple aux inondations catastrophiques de Valence en Espagne en octobre 2024, qui là aussi mettaient en évidence le fait que certaines structures, infrastructures urbaines ne sont plus adaptées, ou en tout cas doivent être reconstruite en conséquence de ce réchauffement et de cette variabilité que vous décriviez à l'instant.
Il faut repenser tant les infrastructures en essayant de comprendre si elles sont encore en mesure de nous protéger, mais je crois qu'il faut aussi avoir une approche plus à large échelle, dans le sens où nous avons aussi construit beaucoup et l'usage du sol change beaucoup aussi la réponse hydrologique. Donc le fait d'avoir Une crue, ça dépend aussi bien sûr d'une pluie forte, mais ça aussi dépend de comment elle est formée, la crue. C'est-à-dire, quand nous construisons beaucoup, on imperméabilise le sol et nous pouvons avoir des crues très fortes. Donc, il faut aussi essayer de s'adapter avec des infrastructures, mais aussi, il faut aussi repenser nos villes.
Auguste Gir, que vous inspire ces propos d'Eleonora Dalan sur l'évolution de nos rapports en tant que société à la pluie, ce phénomène que vous étudiez sous toutes les coutures, mais qui est pas si anodin que ça et qui est vital, je le disais, mais potentiellement destructeur également.
Oui, exactement. Il faut se doter des infrastructures capables de gérer ces quantités de pluie. Et l'imperméabilisation mentionnée par Eleonora est effectivement un défi à gérer en termes de pluie, parce que la pluie qui tombe sur les zones imperméables va être immédiatement active d'un point de vue hydrologique, va tout de suite ruisseler et s'accumuler potentiellement dans les rivières ou les réseaux d'égouts. Et donc une des tendances actuelles, c'est d'essayer de faire en sorte, au moins dans les villes, de stocker localement, de développer des outils pour stocker localement les précipitations et l'infiltrer localement avant qu'elle ruisselle et se retrouve et dans les égouts et les rivières.
Eleonora Dalan a une réaction, un complément sur ce point-là ?
Oui, ça peut être une solution intelligente parce que je crois que nous avons besoin de plus d'infrastructures flexibles, c'est-à-dire qui puissent avoir un usage pour nous protéger du risque hydrologique, par exemple, d'une grande averse, mais aussi qui peuvent nous aider à retenir de l'eau quand nous en avons besoin. Et donc, il s'agit de commencer à penser à des solutions qui, par rapport à ce que traditionnellement nous utilisions jusqu'ici.
Ça fait partie donc des questions que vous soulevez dans ce livre « Balade sous la pluie ». Auguste Gir, je ne résiste pas quand même à la tentation de poser une question un tout petit peu plus légère pour finir cette discussion. Je me suis toujours posé la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il faut courir, marcher, trottiner, sprinter sous la pluie ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dites-nous, parce que je crois que vous apportez des éléments de réponse dans le livre.
Oui, donc effectivement, c'est une question assez fondamentale, que tout le monde se pose au quotidien. Et donc effectivement, et alors de façon assez étonnante, je me suis posé la question il y a quelques années, et en cherchant dans la littérature scientifique, ce qui est la première étape du chercheur, il y a quelques chercheurs qui ont déjà réfléchi à cette question. Donc on a essayé de poursuivre un petit peu avec des étudiants, un groupe d'étudiants il y a quelques années. Donc on a fait des études en tenant compte de la variabilité de la pluie, de la différence de taille de goutte. Et il apparaît que la plupart du temps, dans la plupart des configurations, le plus simple, c'est de courir le plus vite possible pour passer le moins de temps possible sous la pluie. Et ça n'apporte pas grand-chose de marcher lentement. Donc voilà, il vaut mieux courir.
Au bout du compte, vous transpirerez. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Balade sous la pluie, c'est paru aux Presses des Ponts. Grazie mille, Eleonora Dalan. Merci beaucoup, Olivier Favier, d'avoir assuré la traduction aujourd'hui. Et merci à vous, Auguste Gir. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver Alexandra Delbo, qui toute la semaine nous parlera dans sa chronique Avec Science de la santé des femmes.
Comment la médecine répare ses biais ? Les femmes représentent la moitié de la population mondiale, je ne vous apprends rien, et pourtant, elles ne bénéficient pas toujours de traitements aussi bien évalués que ceux des hommes, de diagnostics posés aussi rapidement, ni d'un niveau de connaissances médicales comparable. Toute la semaine, on va s'intéresser à ces biais, et surtout à la manière dont la médecine essaie de les réparer, avec aujourd'hui pour commencer la très lente réintégration des femmes dans les essais cliniques. C'est une étape crucial du développement d'un médicament, c'est à cette étape que des expérimentations humaines permettent de déterminer la dose optimale, la toxicité, les effets indésirables, mais aussi l'efficacité du traitement. Il faut donc inclure le plus de patients possible et surtout des patients représentatifs. Or, les femmes ont pendant plus de deux décennies disparu des essais cliniques. Anne-Sophie Grenouillot est docteure en pharmacie, conseillère technique à la Haute Autorité de Santé et coordinatrice du rapport Sexe, genre et santé, paru en 2020.
Elles étaient même plutôt très présentes dans les essais cliniques dans l'histoire de la médecine. Et puis dans les années 60-70, elles en ont été exclues, notamment aux États-Unis, suite aux effets indésirables de deux médicaments qui étaient largement prescrits aux femmes enceintes. Donc le thalidomide, était prescrit contre les nausées de la grossesse et le distilbène, ou diéthylstilbestrol, contre les fausses couches. Et ces deux médicaments ont provoqué des malformations congénitales très graves. Et en plus, pour le distilbène, des effets secondaires sur plusieurs générations de femmes et d'hommes, on le sait moins, les fils distilbène ont aussi des effets indésirables graves. Et donc, ce risque tératogène a été identifié. Et ça vaut encore aujourd'hui que les femmes sont moins présentes que les hommes dans les essais cliniques.
C'est donc une gestion du risque poussée à l'extrême, ce qui a déclenché un retour en arrière. C'est un rapport américain sur le retrait de médicaments après leur commercialisation entre 1997 et l'année 2000. Résultat, 8 traitements sur 10 ont été retirés du marché parce qu'ils provoquaient des effets indésirables chez les femmes. Les autorités sanitaires ont alors encouragé à réintégrer les femmes dans les essais cliniques, mais nous sommes encore très loin aujourd'hui de la parité. Les États-Unis sont les meilleurs élèves en la matière parce qu'il existe des obligations réglementaires, alors qu'il s'agit plutôt d'incitations en Europe. Et ce manque de représentativité concerne aussi les phases en amont des essais cliniques, en amont des tests chez l'humain. Jusqu'à récemment, les essais précliniques menés sur des animaux n'étaient réalisés presque uniquement sur des mâles, pour soi-disant s'affranchir des variations hormonales, alors même que les hormones fluctuent aussi chez les mâles. D'où une question centrale, pourquoi est-il essentiel d'inclure des patientes dans la recherche biomédicale?
C'est important, déjà parce que par principe, les femmes ne sont pas des petits hommes, les hommes ne sont pas des grandes femmes, on est différents. On est différents pas seulement par notre appareil reproducteur, on est différents aussi parce que les reins des femmes, leur cœur, ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière que celui des hommes. Et ça n'est pas juste une question de taille, les femmes ne sont pas non plus des enfants. Nos organismes fonctionnent différemment, vont métaboliser les médicaments différemment, leur pharmacocinétique sera également différente. Donc c'est déjà une première raison scientifique de dire qu'il faut tester sur les deux moitiés, si on peut dire, de la population. Et l'objectif, c'est de développer des produits de santé ou des interventions en santé qui soient aussi efficaces chez les uns que chez les autres, ou chez les unes que chez les autres, et avec le même degré de confiance. Parce qu'aujourd'hui, en ayant moins de femmes que d'hommes en moyenne dans une étude, mais l'inverse existe aussi, le produit qui est développé ne l'est pas avec le même degré de confiance pour la population en infériorité dans l'étude.
Et la population en infériorité, ce ne sont pas seulement les femmes, mais aussi les personnes âgées ou toutes les origines ethno-raciales autres qu'occidentales. Car toutes ces politiques ont conduit à calibrer les médicaments et les interventions en santé sur des hommes blancs, jeunes d'environ 70 kilos. S'ajoute à cela aussi la dimension du genre. Le genre, c'est la construction sociale et culturelle associée aux différences biologiques et cela va bien au-delà des organes génitaux. Par exemple, ce sont majoritairement des femmes qui demandent aujourd'hui les traitements GLP-1 et bien avant cela, celui du médiateur. Non pas parce qu'elles sont davantage touchées par l'obésité, mais parce qu'elles subissent des pressions sociales pour modifier leur corps. Les choses évoluent néanmoins. En France, la Haute Autorité de Santé incite l'ensemble des acteurs de la chaîne de production de connaissances, des décideurs publics aux scientifiques et aux soignants, à prendre en compte les différences liées au sexe et au genre. Parfois, ces différences ne sont pas centrales, parfois elles le sont. Tout ramener au sexe n'est pas suffisant, mais sans lui, la médecine sera toujours biaisée.
Merci beaucoup Alexandra Delbon, on vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science. Un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD. À la technique aujourd'hui, c'était Éric Perruchot-Triboulet. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans la science CQFD et en attendant, gardez le bon cap. Même sous la pluie, il y a toujours une terre de science en vue.